Le célibat sacerdotal est un engagement pour toute la vie que prend le candidat au sacerdoce avant son ordination diaconale et surtout publiquement devant toute l'Église lors de cette ordination diaconale en vue du sacerdoce. L'explication la plus simple qui me semble au cœur de la signification du célibat sacerdotal et qu'a notamment rappelé Benoît XVI dans son exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, c'est une adéquation à l'Eucharistie. Le cœur de la vie sacerdotale, c'est la célébration de la messe, où ce que fait le prêtre, c'est rendre présent le sacrifice du corps livré du Christ de son sang répandu par amour. Et par son célibat, il se rend adéquat à ce don. Le Christ s'est donné complètement par son corps, le prêtre se rend lui adéquat à ce sacrifice qu'il célèbre devant toute l'Église en donnant lui aussi son corps par son choix du célibat.
Quand est-ce qu'apparaît le célibat dans l'histoire de l'Église ? Et pourquoi certaines églises, comme les églises catholiques orientales, ne connaissent-elles pas l'obligation du célibat ?
Dans les premiers siècles de l'Église, il y avait des diacres, des prêtres et des évêques mariés. Mais ces ministres des premiers siècles, quand ils étaient mariés, à partir du moment de leur ordination, soit diaconale, soit presbytérale, soit épiscopale, ils renonçaient à l'exercice de leur mariage. Et par conséquent, l'Église latine notamment a considéré qu'il était beaucoup plus opportun, plutôt que de demander à un homme marié d'abandonner l'exercice de son mariage et de renoncer à ses droits conjugaux, d'ordonner directement un célibataire. Ce qui est arrivé en Orient, c'est à la fin du 7e siècle un concile purement oriental qui a permis aux prêtres et aux diacres de faire usage de leur mariage. Mais ce qui me semble important de voir, c'est que ce qui existait dans les premiers siècles, c'était cette tradition de la continence.
Les prêtres font promesse de célibat et d'obéissance. Les religieux font vœu d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Y a-t-il une différence de fond entre l'astreinte au célibat des prêtres et le vœu de chasteté des religieux?
D'une part, d'une manière générale, cette obligation de chasteté et de continence totale, elle existe dans l'Église pour tous les baptisés qui ne sont pas mariés. Mais s'il y a une différence entre la promesse de célibat et les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance d'un religieux, à mon avis, elle tient à ce fait. Le religieux a comme fonction dans l'Église et dans le monde de nous donner à nous tous une gifle eschatologique en nous rappelant que la figure de ce monde passe, comme dit saint Paul, et que nous ne devons pas nous attacher à tout ce qui peut être le pouvoir, l'argent, les réalités de ce monde parmi lesquelles nous vivons et que nous pouvons transformer en idoles. En revanche, ce qui est central dans l'élection du célibat pour un prêtre séculier, c'est justement l'adéquation à l'Eucharistie.
Dans la crise de la pédophilie que traverse actuellement l'Église, le célibat est accusé d'attirer des personnalités faibles ou troublées dans la carrière ecclésiale. Est-ce, selon vous, un argument recevable ?
J'ai vu récemment une statistique américaine qui soulignait que pour un cas de prêtre, il y avait, si mes souvenirs sont exacts, 600 cas de professeurs d'éducation physique. Ça ne veut rien dire du tout contre les professeurs d'éducation physique qui rendent un service social extrêmement important, mais ça montre que des personnes qui sont anormales et qui ont une psychologie dangereuse peuvent être attirées par les professions qui les mettent en contact avec des enfants et avec des adolescents.
Autre argument contraire au célibat, l'absence de contact avec les femmes qui joueraient, dans les couples mariés ou non, le rôle de confidente nécessaire à l'équilibre psychologique des hommes, plus enclin au repli sur soi et à la négation.
Quand on accepte la vocation que Dieu donne au célibat, on renonce à trois choses. On renonce à l'exercice de la sexualité, aux actes conjugaux, qui sont quelque chose de beau, de grand et que Dieu bénit dans le mariage. On renonce à cette possibilité d'avoir une personne qui nous comprend, et puis on renonce aussi à la descendance, à la beauté d'avoir des enfants. Et je crois que c'est très important que la personne qui choisit le célibat doit se rendre compte qu'il renonce à ces trois choses qui sont éblouissantes, qui sont grandes et qui sont belles, et qu'il veut les offrir à Dieu pour la mission. Mais un candidat au sacerdoce a la capacité de vivre le célibat s'il a la capacité d'être un homme marié. On demande exactement les mêmes capacités psychologiques, affectives à un jeune homme pour qu'il puisse vivre le célibat en étant fidèle à cette vocation jusqu'à la mort, les mêmes dispositions affectives et psychologiques qu'on lui demanderait pour pouvoir être fidèle à son épouse jusqu'à la mort. C'est finalement quelque chose de très naturel, quelque chose de très sain, S-A-I-N, et qu'il est très facile de trouver dans le cœur d'un jeune homme ou d'une jeune femme s'il s'agit de la vocation à la vie consacrée.